Salut, ça va vous? Alors c'est Bruno, tout seul. Alors pourquoi je suis tout seul? C'est parce qu'en fait, quand on a décidé de relancer Éteindre la lumière, on a pris cette décision d'enregistrer les épisodes tous ensemble. Le truc, c'est qu'on risque pas d'être tous ensemble toutes les 2 semaines. Il fallait donc trouver quelque chose pour vous tenir compagnie et puis alimenter évidemment le flux du podcast, et on s'est dit que de temps en temps, on prendrait 5 petites minutes pour chacun dans notre coin, enregistrer une petite pastille, un petit shot d'Éteindre la lumière, afin peut-être de vous partager quelque chose qui ne sera plus d'actualité au moment où on pourra se réunir pour un futur épisode d'Éteindre la lumière. Alors évidemment, rien n'est écrit. Vous me connaissez, je suis pas la personne la plus concise dans mes propos. Mais je me suis fait un petit thé là. Je vais attendre qu'il refroidisse. Et pour patienter le temps qu'il refroidisse, je me dis, je vais prendre quelques minutes juste pour vous parler de Gueule Noire. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Gueule Noire? Si vous avez écouté le premier épisode, et j'espère que vous l'avez fait, sinon ça n'a aucun sens. Je racontais que je suis allé voir Le règne animal et que je trouve ça important de soutenir des œuvres un petit peu fantastiques, un peu de genre dans notre cinéma national. Je suis donc allé voir Gueule Noire, qui faisait partie de mes grosses attentes. Et je sais que dans le premier épisode, on s'était dit, enfin, on vous a dit, et même entre nous, on s'est dit que on allait un peu conserver Éteindre les Lumières dans un côté un peu plus positif des choses. Malheureusement, je tenais à vous parler de ces films-là et force est de constater que je suis assez déçu. Gueule Noire était vendu comme un film d'horreur qui se passe dans les mines, dans les Hauts-de-France, la région d'où je viens et la région où je vis encore actuellement. Et ce petit soupçon de, pas de fierté régionale, je suis pas dans la fierté régionale, mais en tout cas de, putain, pour une fois, on fait un film d'horreur qui se passe chez nous, qui se passe dans les années 50, un truc rarement fait, et j'étais très curieux de voir ça. Et ben en fait, derrière ce film d'horreur qui se passe dans des mines, se cache en réalité un film de momie lovecraftienne qui se passe dans une crypte qui se trouve sous les mines du... Enfin, je crois pas que la ville soit dite. Et forcément, dès le moment où on arrive dans cette crypte, me voilà déçu. Moi qui m'attendais à voir une équipe de mineurs prête à survivre face à une créature qui sort d'une faille, je ne sais quoi, je me retrouve avec un film de survie dans une crypte, comme on a pu en voir des dizaines et des dizaines et même peut-être même des centaines, couplé à une mythologie lovecraftienne un petit peu classique. Comprenez par là que on va nous parler de civilisation qui a vécu bien avant nous et qui vénérait des dieux qu'on a fini par oublier, et que ces dieux vont se retourner d'une manière ou d'une autre contre nous. On va avoir un professeur qui en sait beaucoup plus qu'il n'y paraît. On va vraiment avoir tous ces clichés-là. Et ben, j'ai été très déçu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et ça pourrait ne pas être un problème, puisque de toute façon, avoir des attentes sur un film, c'est un peu bête, et il faut savoir apprécier le résultat tel qu'il est. Le truc, c'est que le résultat en tant que tel ne me plaît pas non plus. C'est vraiment des grosses ficelles. Les personnages des mineurs qui sont principalement caractérisés en trois mots, c'est-à-dire qu'on a le raciste, on a l'italien, on a l'espagnol, on a le gros, on a le marocain. Enfin, le marocain, c'est pas vrai. Il est un petit peu plus étoffé que ça, puisque il y a un semblant de personnage principal autour de lui, même si il y a beaucoup de moments où on le perd, ce personnage, et on le retrouve un peu plus tard. Enfin, j'ai trouvé ça pas clair. On pense qu'il va servir de... Enfin, il semble pouvoir servir de référentiel pour le spectateur, mais au final, on fait venir un professeur qui lui aussi découvre le monde de la mine. Alors, je me suis vraiment dit, mais il aurait pu servir à ça aussi, ce personnage. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que les personnages sont pas super. À part peut-être le personnage de Samuel Le Bihan, qui littéralement joue Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire le chef de son escouade qui va tout faire pour les soutenir, qui va tout faire. J'ai bien aimé son perso, je me suis même dit que Le Bihan était très bien dedans. Je me souviens pas avoir pensé que Samuel Le Bihan était un bon acteur, et là je l'ai trouvé pas mal. L'autre personnage que j'ai trouvé sympa, c'est le personnage du professeur, qui est joué par Jean-Hugues Anglade, parce que je trouve qu'il tient plutôt bien un personnage un peu over the top, qui dénote un peu avec le reste du film, qui semble pas avoir sa place ici particulièrement. Je trouve qu'il marche bien en termes de professeur faussement naïf, qui cache un secret, qui en fait des caisses en mode... Je sais pas, moi ce perso m'a plu, même si c'est un peu bizarre de l'avoir dans un enrobage plus réaliste, on va dire, que son personnage. C'est-à-dire que son personnage dénote vraiment et semble provenir un peu d'un autre film en termes de jeu, en termes de volonté de jeu. L'autre élément qui semble provenir d'un autre film, c'est la créature. Comme je vous l'ai dit, on est dans un film de momie lovecraftienne, il va y avoir un tombeau, on va l'ouvrir, une créature va s'en échapper et va vouloir exterminer nos personnages principaux. Et pour moi, c'est le plus gros ratage du film. C'est-à-dire que je ne comprends pas son design, je n'aime pas son design, et je connais pas le budget du film, on imagine quand même qu'il a été fait dans un budget assez limité, et... Je pense que la dernière fois que j'ai vu une créature aussi rigide, je pense que c'était Les Dents de la Mer de Spielberg, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir un animatronique qui ne fonctionne pas, ou alors de voir une marionnette, mais qu'on a du mal à rendre vivante. Enfin, à aucun moment j'ai eu l'impression de voir une créature vivante. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une sorte de pantin de bois qui les menace vaguement. On le voit notamment dans les scènes de mise à mort où c'est beaucoup d'ellipses, des gros plans où on voit que même sur les gros plans, la main, elle a du mal à serrer les poignets des acteurs. Enfin, c'est très bizarre, ça fait très très fauché dans ce film qui, pourtant, a une bonne gueule, a quand même pas mal de décors, pas mal de destinations. Enfin, de destinations, on s'entend, c'est-à-dire que le film quand même commence quand même au Maroc, tout ça, donc je me suis dit, ah tiens, je pensais qu'on allait être juste dans le Nord, non, non. Enfin, je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir mis de l'argent dans ce genre de scène et d'avoir une créature vraiment, vraiment, vraiment ratée, quoi. Enfin... Ça m'a amené à ne jamais croire à cette menace, parce que à chacune de ses apparitions, je la trouvais ridicule. Voilà, j'aurais aimé être sympa avec ce film, j'aurais aimé aimer ce film, j'étais prêt à le soutenir. Le premier film du réalisateur Mathieu Thury, c'était Méandre, qui était un film déjà un peu bancal, mais où je sentais une volonté, et là aussi, je sens une certaine volonté, mais on est en 2023, et je trouve ça... dommage de nous rendre un résultat où je me suis dit ça n'a pas évolué depuis 50 ans, quoi. C'est vraiment dommage. Je vous dis à très vite. Alors la prochaine fois, ce sera certainement avec Joël ou avec Aurélie. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode d'Éteindre les Lumières. Bisous.